religieuses aujourd'hui et demain. En compagnie de Mathieu Lavigne et de ses invités.
Bonjour à vous, ici Mathieu Lavigne au micro de Vie religieuse aujourd'hui et demain, un rendez-vous hebdomadaire proposé par la Conférence religieuse canadienne. Claude Gravel, en finale de son ouvrage sur la vie dans les communautés religieuses, écrit ceci au sujet de la vie consacrée au Québec, qui est en pleine mutation depuis le Concile Vatican II. Je le cite. « La braise couvre toujours, là où naguère, un immense feu s'embrasait. Discrètement, presque inconnu du grand public, de nouvelles formes d'engagement spirituel et communautaire sont apparues ces dernières années. Certains de leurs membres n'ont pas 30 ans. » Fin de la citation. En effet, ces nouvelles formes de vie consacrée sont méconnues. Si la semaine dernière, nous avons parlé du contexte d'émergence et des facteurs d'attrait de ces nouvelles communautés religieuses, cette semaine, nous insisterons davantage sur l'expérience, sur la manière dont se vivent ces formes émergentes d'engagement spirituel. Et pour ce faire, je retrouve avec plaisir en studio Marie Salmon et Éric Van Leer, qui étaient avec nous la semaine dernière. Originaire de Lyon, Marie Salmon est mariée et mère de 4 enfants, arrivée au Québec en 2013. C'est en 2016 qu'elle devient la responsable nationale de la communauté du Chemin Neuf. À ce titre, elle supervise l'ensemble des missions de la communauté au Canada, communauté qui compte au pays une quarantaine de membres. La communauté du Chemin Neuf est à vocation œcuménique et réunit des prêtres, des célibataires consacrés, des membres mariés et leurs familles pour un total de près de 2000 membres répartis dans une trentaine de pays. De son côté, Éric Van Leer est né à La Haye, aux Pays-Bas, professeur adjoint à l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. Éric Van Leer est un spécialiste en histoire, en sociologie et en théologie de la vie consacrée et sa thèse de doctorat déposé tout récemment, porte sur les communautés nouvelles et les nouvelles formes de vie consacrées. Marie, Rick, merci beaucoup d'être là avec nous de nouveau cette semaine.
Merci. Avec joie.
Merci pour l'invitation.
Alors, Marie, Rick, on utilise souvent les termes communautés nouvelles et nouvelles formes de vie consacrées pour parler des communautés et de communautés religieuses et associations de fidèles fondées après le Concile Vatican II. Mais dites-moi, est-ce qu'elles sont vraiment nouvelles, ces formes de vie consacrées qui émergent à partir des années 60, Rick?
Il y a de l'ancien et du nouveau. Mais si j'en demeure simplement à des dimensions plus objectives au niveau de ce qui est ancien, il faut distinguer dans ces nouvelles communautés ce qu'on appelle plus techniquement de nouveaux instituts religieux. Instituts religieux, c'est par exemple dans les modèles anciens, les dominicains, les bénédictins, les sœurs de la congrégation de Notre-Dame ou les sœurs grises de Montréal. Ce sont des instituts religieux. Oui. Or, après le Concile, il y a un certain nombre de nouveaux instituts religieux nouvellement fondés, et leur nouveauté est chronologique. Elle n'a pas de nouveauté au niveau de leur forme de vie. À côté de cela, nous retrouvons également de nouvelles formes potentielles de vie consacrée, à savoir les communautés nouvelles mixtes, mixité sexuelle hommes et femmes ensemble, puis les communautés nouvelles pluriétatiques ou plurivocationnelles, comprenant des ministres ordonnés, des personnes mariées, laïques donc, ainsi que des personnes célibataires consacrées à Dieu dans le célibat et la profession des conseils évangéliques.
Et d'ailleurs, certaines communautés nouvelles vont se rapprocher davantage des ordres conventuels du Moyen-Âge. Mm-hmm. Donc, il y a des éléments aussi, encore une fois, on se base sur des éléments de la tradition aussi.
Les éléments sont pas... En fait, l'histoire parfois se répète. et j'avais, il y a déjà plusieurs années, l'hypothèse suivante est que ces nouvelles communautés se rapprochent davantage des ordres conventuels ou mendiants du Moyen-Âge, notamment du XIIIe siècle, à la manière des dominicains, des franciscains, de l'ordre du Carmel, pour citer ces traditions, et sont à une plus grande distance du modèle congrégationniste né au 19e et 20e siècle. Je m'explique, ces communautés du Moyen-Âge sont rapidement apparues avec des branches que l'on va appeler le premier ordre, le deuxième ordre et le troisième ordre, ou le tiers ordre. Habituellement, le premier ordre, c'est la branche masculine, second ordre, la branche féminine, très souvent de tradition contemplative, et une troisième branche, le tiers ordre, qui va regrouper des laïcs, célibataires, mariés, le tiers ordre franciscain, le tiers ordre dominicain, c'est ce qu'on a retrouvé à cette époque. Aujourd'hui, le langage a changé, mais la réalité est la même. On parlera de fraternité séculière franciscaine, oui, ou des fraternités du laïcat dominicain. Or, vous voyez, par mode de branche dans ces communautés ou ces ordres du Moyen-Âge, nous retrouvons un phénomène similaire avec des organisations plus ou moins semblables, mais l'idée est la même, celle de réunir autour d'une intuition évangélique, ce qu'on appellera un charisme fondateur, non seulement que des hommes ou que des femmes ou que des religieux, mais l'ensemble du peuple de Dieu dans la diversité des états ecclésiaux et des états de vie.
Oui. Et certains observateurs vont noter que les communautés nouvelles sont plutôt traditionnelles dans leurs croyances et dans leurs pratiques. Est-ce que c'est une analyse à laquelle vous souscrivez, Eric, Marie?
Alors, traditionnel dans le sens où la place de la prière est prépondérante. Donc oui, les communautés nouvelles vont accorder beaucoup de place à la prière personnelle, à la prière communautaire. Et en ce sens, on peut dire qu'elles sont traditionnelles. Elles se reçoivent d'une tradition où, bien sûr, ce qui est le cœur de cette vie communautaire, c'est quand même la relation au Christ. Mais dans le même temps, toutes ces communautés nouvelles sont profondément modernes. Elles ont la capacité d'utiliser les moyens actuels, par exemple les moyens de communication, les moyens aussi pour l'évangélisation, profondément modernes aussi dans la grande flexibilité qu'elles ont dans leur forme et en particulier dans l'intégration des personnes de sexe différent, oui, hein, au sein des communautés nouvelles. C'est peut-être une grande caractéristique quand même qui se côtoie des couples mariés et des célibataires consacrés. On peut dire que là, il y a quelque chose qui est pour le coup assez différent de la,
oui,
tradition.
Oui, donc voilà, une alliance d'éléments anciens et nouveaux. Là.
Tout à fait, et qui se marient sans doute pour répondre à ce nouveau monde aujourd'hui,
oui,
à cette société actuelle.
Oui. Oui. Rick, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur cette idée que les communautés nouvelles seraient plutôt traditionnelles?
Ben, elles sont de tradition exactement au sens où en parle Marie, c'est-à-dire elles sont porteuses d'une mémoire, elles se reçoivent d'une tradition, et en ce sens, il y a une parenté entre ces nouvelles communautés et les communautés de tradition plus anciennes. Il y a une filiation, on est dans une réalité très, très apparentée.
On n'est pas dans une rupture.
On n'est pas dans une rupture. Là où le mot tradition porte parfois à débat ou à ambiguïté, et la distinction entre tradition et traditionalisme.
Oui.
Et si on parle vraiment de traditionalisme, c'est-à-dire une conception un peu figée de l'histoire passée avec une idéalisation, quasiment la création d'une utopie par rapport à ce qu'a été par exemple la vie religieuse au 19e siècle, et ça fait pas très longtemps, sur 2000 ans d'histoire, oui, du christianisme, là on parle de traditionalisme. Or, statistiquement, les positions vraiment tranchées, dures, du traditionalisme côté nouvelle communauté catholique, c'est une proportion infime,
oui.
C'est pas une réalité très importante. On observe cependant ce que j'appellerais plus un classicisme ou un néoclassicisme, des tendances un peu plus observantes ici et là, mais en même temps une grande diversité, et on peut avoir une célébration liturgique dans la tradition plutôt monastique, et en même temps tout à coup une effusion de chants et de joie avec des instruments de musique, plus dans la ligne du renouveau, oui, charismatique des années 70. Donc, il y a des alliances entre la grande tradition et des éléments modernes qui sont parfois étonnants pour l'œil qui observe les choses de l'extérieur. Mais plus on côtoie, plus on regarde de l'intérieur, ce sont des gens issus de la modernité et qui reconfigurent leur inscription dans la tradition catholique à partir de ce qu'ils sont. Parfois, c'est un bricolage, parfois un peu hétéroclite. Il faut parfois faire un peu de ménage, mais l'intuition est intéressante et nous oblige, je pense, à poser un regard très nuancé sur ces communautés. Et on ne peut pas les taxer, comme certains le font, en disant « Ah, elles sont toutes traditionnelles », comme si c'était quelque chose qui était mauvais.
Ouais.
Elles se reçoivent d'une grande tradition et je pense que c'est tout à leur honneur et tout à leur avantage.
Oui. Et Marie Salmon, j'ai le goût qu'on parle un peu du quotidien dans une communauté nouvelle. J'aimerais savoir, mais à quoi ça ressemble la vie au sein de la communauté du Chemin Neuf? 19, donc le quotidien, comment se déploient les différents modes d'engagement, notamment au sein de la communauté? Comment tous ces gens qui sont d'horizons divers, là, la communauté est œcuménique, donc il y a des protestants au sein de la communauté, il y a des familles, donc des gens mariés, des laïcs, des prêtres. Donc comment tout ce beau monde se côtoie au quotidien?
Alors, c'est dès l'origine que célibataires consacrés et couples ont décidé de se risquer dans une vie communautaire. Pour donner une petite idée à nos auditeurs, la communauté du Chemin Neuf est composée aux deux tiers de couples mariés qui vivent donc dans leur propre maison. Alors, on va appeler cette forme de vie la fraternité de quartier. Ils vivent à proximité les uns des autres. Voilà. Et puis, pour un tiers, ce sont plutôt des célibataires consacrés, hommes ou femmes, avec des prêtres aussi au milieu d'eux, qui, eux, vont vivre sous un même toit, dans une maison communautaire, et on va dire qu'ils vivent donc en fraternité de vie. Alors, parmi ces célibataires consacrés, sous un même toit, il peut y avoir aussi quelques familles qui ont reçu donc cet appel à une fraternité de vie, à cette vie communautaire pleine. Voilà. Donc, ces deux modes existent au sein du Chemin Neuf et c'est dans un libre discernement que les couples peuvent passer d'ailleurs de l'un à l'autre. Pour les célibataires consacrés, bien sûr, ça n'aurait pas beaucoup de sens qu'ils aient leur propre logement et leur propre travail indépendant de la communauté. Ils ont quand même reçu cet appel à une vie communautaire. C'est une vie de religieux. Voilà. Donc, deux formes possibles, mais un même appel avec des constitutions qui nous sont communes.
Et donc des temps de prière en commun.
Alors très concrètement, ça va passer par une vie liturgique et une vie d'événements communs. Alors voilà, selon les lieux, on va trouver un peu des petites choses spécifiques, mais des temps de prière, l'office le matin, en général l'Eucharistie à midi, et puis souvent en fin de journée un troisième temps de prière, des repas communs aussi, pour les célibataires consacrés quasiment tous leurs repas, mais il y a aussi des espaces de solitude nécessaire dans la vie communautaire pour un bon équilibre, bien sûr. Et puis, ce qui est peut-être fondamental et qui souvent est source de curiosité, c'est mais comment peuvent vivre des couples, des familles, voilà, avec des célibataires.
C'était ma prochaine question.
Voilà, on y vient. Voilà, alors je crois que c'est important de se redire que pour un couple qui a reçu cet appel à une vie communautaire, leur premier appel, c'est quand même le mariage. Donc, on aura grand soin dans la communauté du Chemin Neuf, en tout cas, de veiller à ce que les couples et les familles aient leur espace réservé. Alors, matériellement, c'est-à-dire qu'ils ont un appartement familial tout à fait identifié au sein des maisons communautaires. Un espace qui leur est propre. Voilà, et les célibataires de leur côté auront aussi leur espace qui leur sont propres, de telle sorte qu'il n'y ait pas de confusion aussi, et que cela permette au contraire une certaine communion. Mais quand chacun est bien à sa place, tout est plus clair pour tout le monde.
Oui.
Donc, des espaces communs, mais des lieux aussi réservés selon les états de vie. Voilà. Et puis, concrètement aussi, je crois qu'on a, on a la chance d'avoir des lieux de prière dans les maisons, des grandes chapelles, des petits oratoires, toutes formes, voilà, qui nous rappellent que notre premier appel, c'est quand même cet appel de vie donnée pour le Seigneur, pour une fécondité plus large que nous-mêmes.
Et ça doit être difficile de ménager quand même du temps. Bon, on comprend qu'il y a des espaces ménagés, mais du temps pour le couple, notamment pour la vie de famille. Vous êtes mère de 4 enfants. Je veux dire, c'est un défi déjà, c'est un défi pour tout le monde, en fait, de se trouver du temps pour la famille. J'imagine qu'en vie communautaire, est-ce que c'est encore davantage?
Comme vous le dites très bien, c'est un défi de toute façon pour tout le monde.
Oui.
Mais peut-être, alors, est-ce que c'est un plus grand défi pour nous ou au contraire une plus grande chance? J'aurais presque tendance à dire c'est une chance. Pourquoi? Parce qu'on sent bien que d'être ensemble, couple marié et célibataire consacré, il y a là de fait un grand défi, mais il y a aussi une chance parce que nous sommes appelés ensemble, bien sûr, à avoir un rayonnement, mais appeler ensemble aussi à prendre soin les uns des autres. Et ça, c'est quelque chose qui est parfois difficilement compris, mais c'est pourtant notre grand trésor. C'est-à-dire que couple et célibataire ensemble, on sent qu'on peut être gardien les uns pour les autres. Concrètement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? On est appelé à une même radicalité, qu'on soit célibataire consacré ou couple marié. Elle prend deux formes différentes. Un célibataire consacré va devoir, pour vivre son célibat, se garder de grands temps pour la prière personnelle, sa relation au Christ, c'est là la source de son appel. Pour les couples, pour vivre de notre mariage et de cet appel qu'on a reçu, on est invité à prendre du temps en couple, à prendre soin l'un de l'autre. Et ensemble, couple et célibataire, on va être gardien que nos célibataires consacrés, quand on est un couple, on va s'assurer qu'ils ont suffisamment de temps de prière personnelle, qu'ils ont suffisamment d'espace de solitude avec le Seigneur. On va pouvoir même aller jusqu'à parfois s'interpeller mutuellement. Si on remarque qu'un frère consacré ou une sœur ne prend plus de temps de prière personnelle, on aura le devoir aussi d'aller veiller. Et de la même manière, les célibataires consacrés sont aussi veilleurs que les couples qui habitent dans une maison communautaire aient suffisamment de temps en couple et en famille. Donc, on va s'aider mutuellement, en fait.
Ouais. Et vos enfants? Je veux dire, comment vos enfants, quel regard ils portent sur cette situation de vie qui, on s'entend, n'est pas courante. Là, c'est à contre-courant de ce que vivent la grande majorité des familles. Donc, vos enfants, comment ils portent tout ça? Comment ils vivent tout ça?
Alors, peut-être de manière générale, je dirais que les enfants dans la communauté sont les plus petits, donc les plus fragiles au cœur de la communauté. Donc, on va avoir une attention toute particulière pour les plus fragiles. Mais dans le même temps, ils ne sont pas les membres engagés. Ce sont bien les parents qui sont engagés. Ouais. Donc, les enfants, on doit veiller à ce qu'ils aient une grande liberté par rapport à l'engagement des parents. En même temps, tant qu'ils sont mineurs, ils sont avec les parents, donc ils suivent. Bien sûr, si à l'âge adulte, ils reçoivent cet appel à rentrer, ils pourront faire ce choix de l'engagement à leur tour, mais ça sera qu'une fois adulte et très librement. Alors, s'il y a une attention particulière, c'est vrai que chaque enfant va réagir à cette vie un peu particulière, à cette vie un peu marginale, originale.
À l'adolescence, notamment, j'imagine.
Voilà. Et ils vont réagir avec ce qu'ils sont, chacun avec leur personnalité. Ouais. Alors, pour ma part, donc j'ai 4 enfants qui ont entre 9 et 14 ans. Aujourd'hui, je dirais qu'on n'a pas de soucis particuliers. Il commence l'adolescence avec tout ce qu'il peut y avoir de fascinant. Et...
Est-ce que c'est plus facile, l'adolescence, en communauté, nouvelle?
Je ne sais pas si c'est plus facile ou plus difficile. Je dirais 2 choses importantes. Je crois qu'ils sont les premiers bénéficiaires de ce qu'on vit dans son originalité. Alors, quel bénéfice? C'est assez, je crois, assez facile à comprendre. En fait, dès leur plus jeune âge, ils ont la chance de pouvoir côtoyer des adultes autres que seulement leurs parents.
Oui.
Ils ont aussi la chance, dès leur plus jeune âge, de s'être ouverts à l'interculturalité, parce qu'on est quand même une communauté mixte, mais dans tous les sens du terme. Pas seulement hommes et femmes, pas seulement consacrés et couples, mais aussi venant de beaucoup d'horizons différents, de cultures différentes. Donc nos enfants le vivent depuis qu'ils sont tout petits. Voilà. Et puis aussi l'intergénérationnel.
Oui.
Depuis tout petit aussi, ils le vivent, cela, puisque nous vivons ensemble, âges divers, jeunes et vieux. Voilà. Et puis cette grande chance aussi qu'ils côtoient, depuis qu'ils sont petits, ces deux états de vie. Donc, ils voient des couples mariés, comme leurs parents, et puis d'autres familles, mais également des célibataires consacrés, hommes, femmes, et certains qui ont un ministère ordonné. Et c'est aussi une chance que de leur dire, c'est possible. C'est possible de choisir l'un ou l'autre état de vie, et on peut être heureux dans l'une ou l'autre forme de vie consacrée à Dieu. Voilà. Donc moi, je me dirais, quelle chance ils ont. Je crois qu'on leur partage notre grand trésor.
Oui.
Après, ils en font ce qu'ils voudront.
Très intéressant. Et Éric Van Lier, comment se vivent dans les communautés nouvelles les 3 vœux, les 3 conseils évangéliques, soit la chasteté, la pauvreté et l'obéissance? J'imagine qu'une autre approche que celle portée par les communautés de longue tradition est nécessaire, particulièrement pour les communautés nouvelles où s'engagent des laïcs et des couples et leurs familles.
Marie, sans doute mieux placée à partir de l'intérieur pour en parler, et tu me compléteras, Marie, ce qu'on appelle traditionnellement les conseils évangéliques, chasteté, pauvreté, obéissance, sont quand même 3 axes majeurs de l'engagement dans la vie monastique, dans la vie religieuse ou la vie consacrée en général. Ici, autour de la pauvreté, c'est une simplicité de vie, c'est également une vie qui est partagée et où ça atteint le partage des biens. L'obéissance, ce n'est pas une obéissance servile, c'est au sens propre du terme, du latin ob audire, écouter, avec. Or, qu'on soit dans l'état du mariage ou dans une communauté religieuse où on fait profession ou vœu d'obéissance, les couples mariés font vœu d'obéissance l'un à l'autre. Lorsqu'ils sont insérés dans une nouvelle communauté, il y a une autre dimension qui, ou dans laquelle ils insèrent leur projet de vie. Marie le disait bien, leur engagement premier, c'est le mariage. Mais ensemble, ils sont également dans l'écoute des besoins de la communauté et de leurs responsables. Je terminerai ici en spécifiant la notion de chasteté. Très souvent, pour l'oreille sans doute de nos auditeurs, chasteté égale célibat. Or, le mot chasteté, et ce n'est qu'une question ici de vocabulaire et de sens propre du terme, chasteté, c'est une vertu morale. C'est la façon morale d'intégrer la sexualité dans l'état dans lequel nous nous trouvons. Ainsi, les personnes mariées sont appelées à vivre chastement dans le mariage, tout comme les personnes célibataires sont appelées à vivre chastement également. Dans le cas des célibataires, cette chasteté est dans le célibat et la continence, c'est-à-dire l'absence de relations sexuelles. Dans le cas, comme je le disais, pour les personnes mariées, la chasteté est ce respect mutuel des époux et une sexualité intégrée. Il est donc possible pour les couples mariés dans ces nouvelles communautés de répondre à l'appel à suivre le Christ selon ces trois grandes valeurs évangéliques. Je préfère parler de valeurs évangéliques que de conseils. Et cela va être adapté en fonction de leur réalité. Et parfois, comme dans le cas du chemin neuf, et tu me confirmeras Marie, il y a aussi un nouveau vocabulaire parfois qui est employé pour exprimer ces grandes réalités.
Oui, alors je peux préciser un peu, mais d'abord un grand merci d'avoir précisé comment on pouvait entendre le mot chasteté aujourd'hui, parce que de fait c'est un appel pour tout chrétien baptisé. Hein. Alors dans la communauté du chemin neuf, ces trois valeurs évangéliques, bien sûr, elles vont être au cœur de nos constitutions, mais on va en parler un petit peu différemment. Pour les célibataires consacrés, pas de doute, ils font bien les vœux de chasteté, pauvreté, obéissance. Maintenant pour les couples, et pour l'ensemble des membres de la communauté, on va parler davantage, alors pour ce qui est de la pauvreté, on va parler davantage de simplification de vie. On va s'encourager à simplifier nos vies peu à peu. On aime dire que c'est un chemin dans la mesure où on ne part pas forcément tous du même niveau de vie à notre entrée dans la communauté et qu'on est invité à aller un petit peu plus loin dans la suite du Christ pauvre et humble et qui va passer par un allègement, un détachement des biens matériels pour aller vers une vie simple, cohérente, pour que la société qui nous entoure voit aussi cette cohérence de vie. Quoi. Voilà. Pour la chasteté, alors Rick en a largement parlé, on va parler de fidélité conjugale, bien sûr de chasteté pour les consacrés. Et puis pour ce qui est de l'obéissance, on aura plutôt tendance à employer les mots de soumission fraternelle. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire qu'on choisit de placer notre vie sous le regard de son conjoint, bien sûr, quand on est couple marié, de prendre des décisions ensemble, mais bien plus encore de placer non seulement notre vie aussi sous le regard de Dieu, et de la placer aussi sous le regard d'autres frères et sœurs de la communauté du chemin neuf, en particulier les responsables, et lorsqu'il y a des grandes décisions à prendre, de rentrer dans ce qu'on appelle un discernement communautaire, d'accepter aussi de pouvoir rentrer dans un dialogue et de ne pas prendre nos décisions seules. Un discernement à plusieurs est souvent plus éclairé que tout seul. Donc, d'apprendre à être de plus en plus interdépendants les uns des autres, même s'il y aura quand même une grande part de liberté laissée, en particulier aux couples qui ont à charge une famille.
Et pour terminer, quels sont les défis que vivent et qui attendent les communautés nouvelles, Rick?
J'en vois trois. La première est la survivance au fondateur ou à la fondatrice. Oui. C'est souvent un moment charnière, un temps de crise, et si insuffisamment préparé, peut conduire une communauté à disparaître, et parfois de manière assez rapide. Le défi est donc, dans le jargon de la sociologie, on pourrait dire l'institutionnalisation du charisme fondateur, une dépersonnalisation par rapport à la figure même du fondateur et l'inscription dans les institutions. Premier défi. Deuxième défi, celle de l'intergénérationnalité. On est parfois resté accroché à cette image des communautés nouvelles des années 70 et 80 réunissant que des jeunes personnes. Or, les communautés nouvelles les plus anciennes ont maintenant des personnes âgées. On voit des marchettes apparaître. Oui. On ne peut plus prier en se mettant à genoux, à ras le sol. Des petites banquettes commencent à apparaître. Et il y a des personnes qui s'acheminent vers une phase plutôt de retraite. Oui. Et cela est nouveau dans ces nouvelles communautés. Donc l'intergénérationnalité et la préparation à la vieillesse pour un bon nombre de ses membres. Et dernier défi, le bon cadre canonique à donner à ces communautés. On a vécu depuis une trentaine, quarantaine, voire cinquantaine d'années, dans certains cas, un temps d'expérimentation, de liberté ou de relative liberté encadrée, discernée. Peut-être que le temps maintenant est venu d'évaluer le chemin parcouru et de donner des assises institutionnelles, canoniques, plus permanentes à ces communautés, ce qui est nécessaire pour leur survie et leur pérennité.
Oui. Marie, sur ces défis, comment c'est vécu au sein de la communauté du Chemin Neuf?
Assez paisiblement dans l'ensemble. Je dirais qu'il y a déjà quelques défis qui ont été relevés, ce qui nous donne force et confiance pour la suite. Peut-être un des défis qui a été relevé, c'est que le fondateur actuel, qui est toujours vivant, le père Laurent Fabre, a passé la main, c'est-à-dire qu'il n'a plus la responsabilité de la communauté. Donc, il reste le fondateur. Il se consacre maintenant davantage à la transmission, à la formation des novices, à l'écriture d'un livre, etc. Mais il y a eu quand même un premier passage. Oui. Voilà. Il y a eu aussi quelques crises de croissance qui, finalement, aujourd'hui, ont été bien vécues. Donc, quelques défis qui ont été relevés, il en reste devant nous. Ils ont été nommés par Rick, évidemment, le vieillissement de ses membres, et puis la reconnaissance canonique, juridique, ecclésiale. Mmh. Je crois aussi qu'on est traversé par les défis que sont ceux de l'Église.
Oui.
L'évangélisation dans un monde où l'individualisme est croissant, l'évangélisation en monde musulman, par exemple, pour ouvrir aussi encore à d'autres aspects, l'évangélisation sous toutes ses formes, et puis l'adaptation d'un message à donner aussi dans un monde qui se modernise.
Oui.
Je crois que c'est aussi un défi pour les communautés nouvelles de pouvoir... est-ce qu'elles répondront à un besoin dans un temps particulier ou est-ce qu'elles dureront à travers le temps? Je crois que l'avenir nous le dira.
Alors, Marie Salmon, Rick Van Leer, merci beaucoup pour ces réflexions sur les nouvelles formes de vie consacrées. Merci beaucoup. Vraiment, ça a été passionnant. Merci.
Avec plaisir.
Merci.
Alors, je rappelle que Marie Salmon est la responsable nationale de la communauté du Chemin Neuf et que Rick Van Leer est professeur adjoint à l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. Alors voilà, c'était le dernier épisode de la série Vie religieuse aujourd'hui et demain. Un merci tout spécial à la Conférence religieuse canadienne d'avoir rendu possible cette émission, d'avoir porté sur la place publique la voix inspirante des personnes consacrées d'ici. Merci à la Fondation canadienne de la vidéo religieuse pour son soutien financier. Merci à toutes les personnes qui ont accepté de se prêter au jeu de l'entrevue. Cette émission aura été pour moi le lieu de rencontre mémorable, transformatrice. Un merci tout spécial à Jean-Michel Bigou, directeur adjoint aux communications à la CRC, pour son travail rigoureux et indispensable au fil de ces trois saisons de radio. Un amical merci à Pierre Degagné à la régie. Je m'appelle Mathieu Lavigne et je vous invite à rester à l'antenne de Radio VM.